Le Mac de Cahors, c'est maintenant. Gilles Barré au micro, madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, dans le Mac, nous recevons deux invités autour d'un sujet crucial, la situation à Gaza. Alors bien sûr, c'est loin de Cahors évidemment, et pourtant cela nous concerne tous, hein, nous sommes des humains bien sûr, et le malheur des autres ne nous laisse pas indifférents évidemment. Pierre Stamboul est avec nous, qui est militant, qui est aussi bien sûr porte-parole de l'Union juive française pour la paix, ainsi que Sarah Katz, qui est sociodémographe, j'allais dire, qui a aussi co-réalisé un documentaire avec Samia Hayeb qui s'appelle « Aimer la mer à Gaza » et qui raconte, en gros, on va voir ça plus en détail, mais la vie et la résistance des Gazaouis. Merci à tous les deux d'être avec nous. Bonjour.
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 Alors dites-moi, Pierre, hier a eu lieu cette conférence qui s'est déroulée à la salle des congrès de Cahors. Quel était l'objectif principal de cette conférence ?
L'objectif, il est qu'on a depuis maintenant bientôt 3 ans un génocide à Gaza, que nous qui sommes juifs, ce génocide se fait en notre nom, que bien souvent ce génocide serait impossible sans une forme de complicité de l'Occident, et en particulier de notre pays, la France, complicité politique, économique, militaire, bancaire, idéologique, judiciaire. Et donc, on sait que les gens savent très très peu de choses sur cette guerre-là. Nous, de par notre histoire personnelle, nous savons qui sont les dirigeants israéliens. Ce sont des fascistes. Et il est extrêmement important que nous puissions décrire la réalité de ce qui s'est passé. Moi, je suis intervenu hier sur l'histoire principalement. L'histoire de cette guerre de l'Antiquité à nos jours pour démonter un certain nombre d'idées reçues et expliquer comment on en arrive aujourd'hui à pouvoir tuer des dizaines de milliers de personnes en disant qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza, qu'on peut s'en prendre aux femmes et aux enfants. C'était le but et on a parlé à deux et Sarah va expliquer aussi comment...
Alors je sais que Sarah, vous avez vécu vous à Gaza, vous aussi Pierre, non ?
J'y suis allé 2 fois.
D'accord.
Et la dernière fois, on était ensemble en 2016 et nous avons rencontré en tant qu'Union juive française pour la paix, nous avons fait des dizaines et des dizaines de rencontres, dont les dirigeants de tous les partis politiques à Gaza, les pêcheurs, les paysans, les étudiants, les bédouins, etc.
Je vous sens désabusé, hein, je sens, hein, dans vos propos là, non ?
En colère.
En colère, ouais, c'est plutôt ça. Ouais.
En colère, je veux dire, je suis fils de déporté. Je suis fils de résistant, et voir qu'on vit en ce moment une horreur pareille et qu'on n'arrive pas à l'empêcher, et voir ressurgir des tas de choses qui ont permis le génocide.
Quelles initiatives ou quelles mobilisations vous semblent essentielles aujourd'hui pour soutenir la population civile de Gaza ?
Toutes. Ouais. Il faut tout essayer, il n'y a aucune solution miracle. Il y aura le 28 mars, c'est donc imminent, des manifestations dans toute la France pour défendre les droits du peuple palestinien. Il y a une flottille qui va partir, on espère 100 de bateaux pour briser le blocus de Gaza. Il y a des initiatives de toutes sortes. La réunion d'hier était une réunion d'information, d'explication, parce que les gens n'en trouvent pas.
Oui.
Dans les médias, on entend des choses complètement abracadabrantes, donc il faut tout essayer. Nous, les militants, on frôle l'épuisement, mais l'appareil d'État, l'appareil médiatique, je vous le dis, c'est une vraie honte. Je veux dire, nous, les Juifs, les gens qui niaient le génocide, les gens qui disaient qu'on avait gazé des poux à Auschwitz, on a trouvé ça insupportable, et les gens qui nient la destruction du peuple palestinien, qui nient que les colons sont des fascistes, qui nient qu'aujourd'hui... on peut bombarder l'Iran, le Liban, sans aucun problème, qu'on peut piétiner le droit international complètement, que la loi du plus fort s'impose partout, et que les gens acceptent ça, oui, ça me met très en colère.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve.
Chatterton, allons voir sur CFM Radio. Dans le Mac de Cahors aujourd'hui, on parle de ce sujet crucial, la situation à Gaza. Et pour cela, eh bien, on parle de cette conférence qui s'est déroulée hier au Palais des Congrès de Cahors avec Pierre Stamboul, militant et porte-parole de l'Union juive française pour la paix, ainsi que Sarah Katz, sociodémographe, qui a co-réalisé avec Samia Hayeb un documentaire « Aimer la mer à Gaza ». On les retrouve dans quelques secondes.
CFM Radio, 40 ans de liberté, 40 ans d'expression.
Sarah Katz, vous avez co-réalisé avec, je le disais tout à l'heure,
Samia Hayeb.
Vous avez co-réalisé le documentaire « Aimer la mer à Gaza ». Déjà, le titre est joli. Hein. Déjà, pouvez-vous nous en dire un peu plus? De quoi s'agit-il?
Alors, ce documentaire, il vient de la période où j'ai vécu à Gaza. Je tiens à dire aux auditeurs, j'ai vécu plus de 2 ans à Gaza. J'entre pour la première fois au printemps 2011 et je partirai au printemps 2014. Et dans ce laps de temps, je vais rester en tout, si je somme, plus de 2 ans à Gaza, dans 18 mois continuellement. Donc j'ai vécu à Gaza et je tiens à le dire d'emblée, avec mon nom juif que je porte fièrement, avec mes cheveux à l'air. Et je n'ai pas eu le moindre problème. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert à Gaza, c'est une société qui est très différente de l'image que les médias mainstream envoient sur ce qu'était Gaza à l'époque, ce qu'est Gaza actuellement. Donc,
c'était en quelle année, ça, vous avez vécu là-bas ?
Entre 2011 et 2014.
D'accord.
Et donc, dans ces années-là, avec le mouvement historique ISM, International Solidarity Movement, et avec une association créée par une petite équipe espagnole, une association très active, UNADICUM, à Gaza, on organisait l'aide maximum que nous pouvions donner aux pêcheurs et aux paysans. Pourquoi les pêcheurs et les paysans ? Parce que l'occupant, Israël, s'attaquait spécialement à tout ce qui pouvait permettre à la société civile de vivre. Et si vous coupez le lien économique, si vous empêchez la vie économique, vous avez une petite chance de désagréger la société. Et c'était fait d'une manière, d'une brutalité incroyable, avec des morts chez les pêcheurs, des morts chez les paysans. Et donc, quand j'étais là-bas, ce que nous faisions en tant qu'internationaux sur place, c'était d'entourer ces deux corps de métier et d'essayer d'obtenir qu'ils puissent travailler. Donc, pour les paysans, ça voulait dire être sur leur champ, se mettre entre la barrière de séparation qui coupe les champs en deux. En réalité, c'est pas que les champs des Gazaouis vont cogner contre la barrière, c'est que la barrière s'est installée au milieu des champs des Gazaouis, les coupant en deux, une partie qui leur reste et une partie qui leur était interdite. Et donc, le long de cette barrière, nous nous mettions en bouclier humain, bien identifiés avec des gilets, les mains en l'air pour dire qu'on n'allait pas faire de quoi que ce soit de répréhensible, mais en criant et en essayant de gêner les snipers qui essayaient de tirer sur les paysans derrière nous.
Ce sont les aspects que vous avez voulu montrer à travers le documentaire ?
Non, le documentaire ne porte pas sur les paysans, j'y arrive, il porte sur les pêcheurs.
D'accord.
Les pêcheurs, c'est aussi une profession très importante à Gaza. La pêche à Gaza est attestée depuis 3000 ans. Enfin, ça a toujours été un grand port de pêche. Et la pêche est très importante parce que dans la manière de se nourrir de ce coin du monde, on intègre beaucoup de poissons et parce que ça évite d'être dépendant des gros commerçants qui sont en fait dans la main de l'occupant. Donc à cette époque-là, il restait encore à Gaza des petits chalutiers, tout petits chalutiers, qui étaient très important économiquement parce qu'il ramenait suffisamment de poissons pour pouvoir permettre une vraie, je dirais pas complètement indépendance en poissons, mais enfin un vrai apport sur les marchés. Ces petits chalutiers étaient soumis à une chasse terrible de la marine israélienne et c'est pour témoigner de cela que le film a été fait. Donc le film montre à la fois les gestes du travail et le fait qu'on se voit bien, on sent qu'on est sur des gens qui sont pêcheurs de père en fils, je reviendrai sur cette question, de père en fils depuis toujours, et qui aiment leur métier, qui aiment la mer et qui sont conscients de nourrir leur population. Et ces chalutiers donc ont fait l'objet d'une chasse terrible avec les vedettes de guerre. Nous étions pareil, les internationaux sur les chalutiers, avec nos drapeaux nationaux, et nous essayons de crier aux soldats, mais on vous voit, le monde vous voit, vous n'avez pas le droit d'empêcher les pêcheurs de pêcher, on est dans les eaux de Gaza, mais en fait, on n'a pas réussi à sauver les chalutiers, et les seuls bateaux qui ont pu continuer à travailler, c'était les grandes barques pontées, et si vous avez l'occasion, auditeur, de voir le film, vous verrez ce que ça peut être qu'une vedette de guerre contre une barque. C'est terrifiant. Voilà, donc je voulais le film est dédié aux pêcheurs et au-delà des pêcheurs, dédié à la population gazaoui qui essaye de survivre.
Mais comment votre documentaire illustre-t-il la résilience ?
Bien simplement, en ne faisant rien d'autre que de les regarder et de les filmer. La résilience, elle est dans tous les gestes de la vie. Elle est dans le fait de prendre la mer, elle est dans le fait de continuer à affirmer son droit sur cette portion de terre, à continuer à éduquer les enfants, continuer à avoir une vie collective. Et une des choses que montre le documentaire, c'est que ben, dans cette partie-là du monde comme partout, il y a des rêves qui paraissaient improbables et qui peuvent se faire. Et il y a une grande interview d'une toute jeune fille, toute jeune femme, pêcheure, la première femme pêcheur de Gaza, qui explique pourquoi elle a pris la mer et son combat pour prendre la mer et comment elle a fini par s'imposer dans ce milieu très masculin en tant que femme pêcheur. Donc montrer la résilience, c'est simplement amener des images de ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'aller fouiller, d'aller se... voilà, le peuple gazaoui existe, il survit, et la survie sous forme d'occupation, ça a un mot, c'est résilience, oui.
C'est un documentaire qui dure 20 minutes environ, je crois. Vous êtes resté sur place plusieurs semaines.
Moi, je suis resté 2 ans à Gaza, donc j'ai eu le temps. On est beaucoup allé sur les bateaux, et puis j'ai pu interviewer longuement Madeleine. Elle s'appelle Madeleine, notre femme pêcheur. Elle existe toujours. Elle est vivante, ce qui n'est pas le cas de centaines de pêcheurs qui ont laissé leur vie depuis que le film existe, et en particulier dans la dernière grande vague génocidaire. Hein, depuis octobre 2023, c'est 210 pêcheurs qui ont été tués. Et puis, il n'y a plus un bateau qui flotte. Il n'y a plus un bateau à Gaza qui flotte.
Aujourd'hui,
ils ont été tous ciblés pour être envoyés au fond de l'eau. Quand les pêcheurs arrivent à sortir un tout petit peu, tout près du bord, pour essayer de ramener quand même un peu de poisson, parce que c'est ce qu'ils savent faire et parce que c'est nécessaire, eh bien, ils sont sur n'importe quoi qui flotte. Il y en a qui partent sur une porte de frigo, sur une planche, et leur connaissance de la mer et le fait qu'ils s'entendent très bien avec leur mer, MER, fait que bon, bah, ils arrivent à ramener un tout petit quelque chose, mais ils sont dans une situation professionnelle effroyable et la famine s'étend sur Gaza. Donc voilà.
Pierre, lorsque vous avez vu ce film, je peux avoir votre ressenti?
J'ai été sur le port de Gaza, j'ai vu, quand on a sillonné Gaza, il n'y a pas un seul endroit où on n'a pas été. Je connais un des personnages qui est dans le film, Zakaria Baker, qui est le secrétaire du syndicat des pêcheurs. On a rencontré le secrétaire du syndicat des pêcheurs de Canyonis aussi. Ce qui frappe à Gaza, c'est que c'est une population qui ne veut pas être assistée. C'est une population qui veut vivre et produire par elle-même. Et je veux dire, on ne se rend pas compte de ce qu'on leur inflige. Il faut quand même savoir qu'il y a plus de journalistes de Gaza morts depuis le début du génocide que de journalistes mondiaux morts pendant tout le XXe siècle. On est quand même dans des choses ahurissantes.
Et là, quand vous dites ça, je pense à la petite Fatma, je crois qu'elle s'appelait, Fatma Hassona,
bien sûr,
avec son film, qui est un film qu'on a vu ici à Cahors, très poignant, avec son sourire, cette pauvre gamine qui avait un sourire éclatant.
Et je veux dire qu'il faut savoir quand même que, même les Israéliens l'ont reconnu, 70% des morts sont des femmes et des enfants. Les Israéliens ont reconnu que ce que disait le gouvernement du Hamas, qui avait 72 000 corps identifiés, c'est vrai. Mais ce que dit The Lancet, c'est que si on compte tous ceux qui sont disparus, tous ceux qui vont mourir parce qu'il n'y a plus aucun hôpital qui tient, parce qu'il y a la famine et tout, c'est 200 000 morts, c'est 10% de la population. C'est sous nos yeux. Je veux dire, c'est à 3000 km d'ici. Moi, j'habite Marseille. Le soleil se couche à Gaza comme il se couche à Marseille. C'est la même mer. Et là-bas, c'est l'enfer. Et c'est l'enfer avec notre complicité, parce que j'ai qu'à ouvrir la télé et je vois bien que ceux qui parlent, ils sont complices.
C'est un film, Sarah, que vous présentez partout en France. J'imagine, vous faites le tour un petit peu des grandes communes. J'imagine que ce film soutient et complète l'action militante de Pierre. Je pense que c'est dans ce sens que vous le présentez aussi, non ?
Tout à fait. D'ailleurs, hier, on a présenté le film et puis on a enjambé 12 années et on a présenté deux des protagonistes du film, Zakaria, dont parlait Pierre, qui est le responsable syndical des pêcheurs, et Madeleine, qui est maintenant mère de famille, et qui parle sur le bord de la plage de Gaza et qui parle des flottilles en disant combien pour eux c'est important Vous vous rappelez peut-être qu'à l'été 2025, deux grandes vagues de flottilles sont parties pour briser le blocus. J'étais moi-même sur la flottille de 2018. Donc l'idée de dire « vous nous empêchez d'arriver à Gaza par la terre, on arrivera par la mer », c'est une idée militante qui date de 2010. Donc je présente après le documentaire ces images qui datent d'il y a quelques mois, de qu'est-ce que ça veut dire de rester vivant, de rester solidaire, de rester ensemble en situation génocidaire, et combien c'est important pour les Gazaouis de savoir qu'il y a un soutien international et que des gens partout dans le monde disent « on ne laissera pas faire ». C'est absolument fondamental.
Le temps passe très vite. Une dernière question, comment réagissent le public à la fin de la projection? Ils viennent vous voir, vous en parlez?
Oui, oui, il faut dire que ce film a une histoire un peu incroyable, parce que j'avais ces rushs que j'avais ramenés, donc quand je rentre en 2014, et ça m'arrachait le cœur qu'ils soient dans mon tiroir, mais moi je ne suis pas cinéaste, je ne savais pas faire, et j'en avais parlé à Samia Ayeb, qui est une très bonne amie, et un jour elle me dit « ça suffit comme ça, Sarah, tu m'amènes tes rushs et on va en faire quelque chose ». Et en fait, elle est la vraie productrice du film, elle a fait une chose très, très convaincante, très jolie. Le film a eu, la première fois qu'on le montre, c'est au festival Pêcheurs du Monde de l'Orient, un très grand festival, un festival très important sur la question de la pêche dans le monde, et nous avons eu un prix. Donc ça a lancé le démarrage du film.
Voilà. Écoutez, merci à vous deux, Pierre Stamboul, Sarah Akkad, pour ces témoignages et ces échanges. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt, au revoir.
Au revoir.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
C'est ainsi que se termine le mag de Kaor aujourd'hui. On se retrouve lundi. Je vous laisse avec Jeff Buckley, cette très très belle chanson. Alléluia, madame, monsieur. À lundi, bye bye, bon week-end.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a call.